Deuxième jour de notre semaine et la grande table convie autour d'elle l'art et la philosophie. À 13h30, Emma Lacloun viendra nous parler du spectacle Bottin botanique qu'elle reprend pour le festival Humour et Eau salée. Mais avant cela, c'est la philosophie qui va nous occuper, en particulier celle que l'on retrouve dans le roman Libertin. Un ouvrage, Philosophie des pornographes, de Colas Duflot, explore l'ambition philosophique de ces romans clandestins affranchis de morale religieuse. S'ils ne sont pas prescripteurs, ces textes portent en eux une philosophie du corps, des sens et des passions, une morale hétérodoxe qui éclot au siècle des Lumières et dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Colas Duflot, professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre et d'Élise Sultan-Villet, enseignante et docteur en philosophie à l'Université Panthéon-Sorbonne. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Élise Sultan-Villet, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte dans lequel émergent ces romans libertins? On est en plein siècle des Lumières et eux se trouvent être des textes qui circulent sous le manteau, des textes clandestins.
Oui, tout à fait. C'est des textes qui circulent donc juste avant la Révolution française. Hein. Ils ont commencé à circuler aux alentours des années 1730. Et c'est dans un contexte de développement des Lumières qu'ils apparaissent et qui sont, ils sont d'ailleurs beaucoup plus lus que les textes officiels de l'époque. Hein. Nous, on a retenu des Lumières Diderot, Rousseau, etc. Et en fait, ce sont des textes qui sont très très lus, qui ont un public très très large et qui sont pourtant diffusés sous le manteau, hein, comme vous dites.
Mais, alors qui sont achetés, imités, copiés. On va retrouver toutes ces facettes-là, Colas Duflot.
Oui, ce sont des textes qui connaissent une grande diffusion. Les historiens du livre, en particulier Robert Darnton, ont bien décrit le fait qu'ils font l'objet d'un commerce qui est en réalité très, très, très large. C'est un commerce clandestin, mais finalement, on a l'impression que les livres circulent de façon assez abondante depuis la Suisse, la Hollande, les imprimeries clandestines à Lyon, en Avignon, à d'autres colporteurs, à d'autres aussi en sous-main chez les libraires. Enfin, ce sont des textes qui circulent, qui sont lus, qui sont imités, qui sont copiés et qui vont traverser tout le siècle.
Alors, même s'il existe divers auteurs, d'ailleurs plus ou moins anonymes, on ne connaît pas les noms de tous, il va y avoir quand même des caractéristiques communes qui les classent dans cette catégorie de romans libertins. Quelles sont-elles, ces caractéristiques?
Ah, alors là, c'est
en fait, à la fois sur le plan formel et sur le plan thématique.
Alors sur le plan thématique, on pourrait appeler libertin au sens large tout roman qui fait de la sexualité son principal objet. Ce qui fait le point commun aussi de tous ces textes qui nous intéressent ici, c'est que ce sont des textes clandestins, des romans donc qui circulent dans un réseau de textes clandestins. Qui est un réseau qui ne comporte pas d'ailleurs que des romans pornographiques, mais aussi des textes philosophiques. Ils appartiennent à cette sphère de la clandestinité.
Alors, il y a une autre caractéristique qu'on retrouve régulièrement, c'est une dimension anticléricale ou antireligieuse. En tout cas, la mise en scène dans les scènes sexuelles de personnages du clergé. En tout cas, on les retrouve dans les livres auxquels vous êtes intéressé.
Ah oui, la première cible. Mais ça, en un sens, cette cible anti-religieuse, elle se trouvait presque déjà avant. Dans les contes de La Fontaine, on voit des abbés débauchés, des prêtres corrompus, des moines libidineux. Alors tout ce personnel va être utilisé dans les romans libertins. Évidemment, il s'agit de dénoncer. Ce sont des livres anticléricaux. Hein, il faut le dire, mais plus profondément, ce n'est pas seulement les personnages qui sont dénoncés et leur immoralité, mais c'est la morale chrétienne qui est attaquée.
Alors à travers ça, on peut parler de philosophie, alors philosophie en tout cas de dénonciation d'une morale établie qui est la morale religieuse du XVIIIe siècle. Élise Sultan-Villet, qu'est-ce qu'on peut dire de cette dimension subversive au-delà de la question sexuelle?
Ce sont des textes qui avant tout vont effectivement contre la morale instituée, véhiculée notamment par l'Église, et contre les préjugés. Et d'un point de vue philosophique, en fait, ça rejette aussi une manière de philosopher, vu que ils philosophent à travers des récits, à travers des fictions. hein, et donc ça rejette les formes traditionnelles de la philosophie. Donc quelque part, ça renouvelle en fait les formes même de l'écriture philosophique, vu qu'il propose de la philosophie dans des romans. Dans
à l'intérieur d'une narration fictionnelle.
Voilà, c'est intrigué, c'est vraiment, c'est inextricable, et on serait bien en peine d'ailleurs de les dissocier, hein, de essayer de vraiment constituer la philosophie des romans libertins en prenant les textes, d'un côté les textes philosophiques et de l'autre les récits. En fait, ça n'aurait pas de sens, en fait, c'est vraiment entremêlé. Il faut vraiment lire ces textes philosophiques à l'intérieur de ces récits, et c'est vraiment ce qui fait leur spécificité.
Alors,
ça marche ensemble.
À l'intérieur justement de ces textes, on va reprendre la forme, parce qu'il y en a plusieurs aussi. Il y a cette idée, alors vous dites qu'au-delà du flou, de lumière hétérodoxe. Alors quelle est cette idée justement des lumières hétérodoxes? C'est une manière différente de transmettre les idées dans ce siècle des Lumières-là, en remettant en cause la doxa?
Oui, au fond, on peut parler de lumière hétérodoxe pour au sein même du mouvement des Lumières, il y a des Lumières qui sont, en un sens, compatibles avec la monarchie française, avec une religion éclairée. C'est par exemple, ces lumières vont être diffusées aussi d'une certaine façon avec le soutien de la monarchie. D'une certaine façon, l'encyclopédie a été autorisée, puis interdite, puis à nouveau autorisée, mais en un sens on est dans des lumières acceptables. Et ça, c'est les lumières, l'histoire naturelle de Buffon, par exemple. C'est les lumières, mais c'est les lumières officielles, d'une certaine façon, publiées, acceptables. C'est le mouvement de la science, de la raison, etc. En sous-main, il y a aussi ce qu'on peut appeler les lumières hétérodoxes, c'est-à-dire les lumières athées, déistes, qui vont contester les dogmes religieux, qui vont... s'attaquer donc à des choses beaucoup plus fondamentales. C'est ce qu'on a appelé, Jonathan Israël parlait de lumière radicale. On parle maintenant plutôt de lumière hétérodoxe. Mais voilà, donc à l'intérieur des Lumières, il y a deux courants. D'une certaine façon, il y a un courant officiel et avouable, et puis il y a un courant clandestin qui circule pendant tout le siècle. Quelquefois, ce sont les mêmes auteurs qui ont ces deux facettes. Diderot a une facette officielle et une facette clandestine.
On va parler d'ailleurs de son premier roman. À travers cette notion-là de lumière hétérodoxe, il y a l'idée en sous-main d'une transmission d'idées, et en particulier d'idées critiques.
Oui.
Au-delà du flot.
Il y a une tradition libertine qui remonte au XVIIe siècle et qui passait beaucoup par des manuscrits clandestins. Hein, des petits cercles se diffusent des textes de façon très réduite. Et ce qui va se produire dans les années 1740, c'est qu'au fond, on publie de plus en plus de choses, et il y a un mouvement, en quelque sorte, de propagande, si on peut dire, enfin dans un sens positif, mais de propagande de ces lumières critiques, où on va avoir une industrie de la publication clandestine. Et ce sont ces lumières critiques connaissent un second stade de développement beaucoup plus offensif d'une certaine façon.
Élise Sultan-Villiers, cette idée-là, c'est de reprendre aussi en philosophie le débat sur le corps, les passions, les désirs. Le calcul de ces désirs, c'est finalement des vieilles questions philosophiques qui vont être retravaillées par ces lumières hétérodoxes.
Oui, il y a beaucoup de thèmes d'inspiration épicurien, notamment le calcul des plaisirs et des peines. Et il y a beaucoup de choses qui sont reprises à la sagesse antique, notamment le fait qu'on ne doit pas dissocier la théorie et de la pratique, et que la philosophie est avant tout un mode de vie. Il faut que ce soit des philosophies à vivre.
Donc une expérience.
Tout à fait, et donc parmi les thèmes qui sont repris, il y a aussi les thèmes des Lumières, dont le thème de l'expérience, et ce sont effectivement des textes qui, avant Condillac, avant que le sensualisme vraiment se développe, parlent des sens, parlent de la connaissance par les sens, l'éducation par les sens, et donnent une place très importante au corps, ce en quoi ils vont contre toutes les philosophies à la mode de l'époque, contre les idées platoniciennes, contre les idées innées de Descartes, donc c'est très très subversif de ce point de vue-là, de dire que c'est le corps qui prime, ce sont les sens qui priment, et ce sont à eux de nous apprendre à vivre et à connaître, il n'y a que par les sens que ça passe, par le plaisir sensuel aussi.
Alors de ces romans libertins vont naître des questions métaphysiques qui sont comprises, intégrées à l'intérieur du texte par justement deux récits un peu parallèles, en tout cas des modes de récits qui se chevauchent.
Oui, il y a une alternance entre donc des scènes sexuelles, hein, des ébats sexuels et des débats philosophiques. Il y a une alternance qui est caractéristique de tous ces romans libertins, avec pour idée que on ne transmet les thèses philosophiques en question qu'en les expérimentant, hein, qu'en les vivant en propre, hein, qu'en faisant l'expérience dans sa propre chair, comme le font les personnages, et comme les personnages nous invitent, nous lecteurs, à le faire aussi. C'est ça qui est assez frappant aussi, c'est qu'il y a vraiment une forme de prosélytisme, où il y a beaucoup d'adresses d'ailleurs aux lecteurs, hein, où on nous dit, bah, si vous voulez comprendre la philosophie libertine, bah, faut le vivre vous aussi dans votre chair, et en lisant ce texte, vous aussi vous allez être excité, stimulé par ce qu'on va dire, et c'est ça qui va vous convaincre du bien fondé de nos thèses. Hein, il y a vraiment un jeu en interaction, hein, sont vraiment un peu les ancêtres des livres dont on est le héros, en fait, finalement.
Alors, Colas Duflot, vous faisiez allusion à Diderot tout à l'heure, vous l'avez même cité directement. On va justement entendre la lecture d'un extrait des Bijoux indiscrets, son premier roman.
Ah, s'il m'était donné seulement pour 24 heures d'arranger le monde à ma fantaisie, je vous divertirais par un spectacle bien étrange. En un moment, j'ôterais à chaque âme les parties de sa demeure qui lui sont superflues, et vous verriez chaque personne caractérisée par celle qui lui resterait. Ainsi, les danseurs seraient réduits à deux pieds ou à deux jambes tout au plus, les chanteurs à un gosier, la plupart des femmes à un bijou, les héros et les spadassins à une main armée, certains savants à un crâne sans cervelle. Il ne resterait à une joueuse que deux bouts de main qui agiteraient sans cesse des cartes, à un glouton que deux mâchoires toujours en mouvement, à une coquette que deux yeux, à un débauché que le seul instrument de ses passions. Les ignorants et les paresseux seraient réduits à rien.
Pour peu que vous laissassiez de main aux femmes, interrompit le sultan, ceux que vous réduiriez au seul instrument de leur passion seraient courus. Ce serait une chasse plaisante à voir, et si l'on était partout ailleurs aussi avide de ces oiseaux que dans le Congo, bientôt l'espèce en serait éteinte.
Alors on entendait justement ici une lecture de Julien Rosa et de Pablo Valero. C'est un élément discursif aussi que l'on a. On voit que finalement à certains moments ce sont des théories, des thèses sur le corps et sur ces données métaphysiques qui sont exposées à côté des récits qui sont plutôt de l'ordre des confessions, Colas Duflot, confessions amoureuses.
Alors le texte qu'on vient d'entendre donc se trouve dans Les Bijoux indiscrets, qui est un roman à l'oriental.
L'orientalisme.
C'est la mode des contes orientaux depuis la traduction des Mille et une Nuits. Et puis, il y a eu les contes orientaux libertins de Crébillon, par exemple. Et Diderot se moule dans ce modèle. Et à l'intérieur des Bijoux indiscrets, il y a un moment où la favorite du sultan donne une leçon de philosophie parodique. Elle se déguise en philosophe, c'est-à-dire elle met une cape noire, elle s'habille en docteur de Sorbonne, en quelque sorte. Elle est déguisée en chauve-souris, c'est-à-dire en docteur de Sorbonne, et elle donne une leçon de philosophie parodique qu'on vient d'entendre, qui au fond, on se demande ce qu'elle raconte, mais ce qu'elle raconte, c'est réfléchissons au siège de l'âme. On nous dit toujours l'âme est une chose immatérielle, en fait non, l'âme elle circule dans le corps, etc. Et cette philosophie parodique, elle est d'abord faite pour faire sourire, et puis ensuite elle est faite pour faire réfléchir le lecteur. Est-ce que l'âme c'est autre chose que le corps? Et Diderot ne donne pas de... Ça, c'est tout à fait dans l'esthétique de Diderot. Diderot se garde bien de conclure à la place du lecteur. Diderot laisse le lecteur devenir un lecteur critique et réfléchir par lui-même à la question de savoir si nous avons bien une âme immatérielle ou si l'âme, ce n'est pas simplement le corps tel qu'en lui-même, enfin d'une certaine façon, vu d'un autre point de vue. Hein,
À travers cette question du corps, c'est la question de la volonté, de qui dirige cette volonté qui est posée aussi. Finalement, c'est la question de Dieu qui est posée, Colas Duflot.
Oui, alors ça, dans de nombreux textes de ce type, alors je repars du mot expérience que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est important que ce soit des romans, comme le rappelait Élise Sultan, au sens où on voit d'abord des personnages qui font des expériences et qui racontent leurs expériences. Dans le cadre du roman Mémoire, un personnage raconte ce qui lui est arrivé, etc. Et ils vivent des expériences qui sont quand ils vivent une expérience sexuelle, ils vivent une expérience qui est en désaccord avec la morale reçue. Et pourtant, ça leur fait du plaisir. Et alors, à partir de ce désaccord, ils se mettent à réfléchir. Ben, ce que nous avons fait, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Donc, interrogation morale. Et puis, d'où viennent les normes morales? Alors, de la nature, etc. Et à partir de là, peuvent se déployer toute une série d'interrogations sur les fondements de la morale. Si c'est pas dans la religion, c'est dans la nature. Et si c'est dans la nature, qu'en est-il de Dieu? Qu'est-ce que les religions? Voilà. Et donc, à partir de l'expérience libertine des personnages se déploie potentiellement toute la philosophie d'une certaine façon. Alors tous les textes ne le font pas, beaucoup se cantonnent au domaine de la philosophie morale, mais un certain nombre, à partir de là, sont obligés d'explorer le rapport entre nature et religion. Et puis à partir du moment où on s'interroge sur la religion et sur la morale, eh bien, on parle de Dieu, qu'est-ce que Dieu ? Etc. Et de là, donc, se déploie toute une philosophie possible à l'intérieur du dialogue et à partir de ces expériences romanesques.
Élise Sultan-Villet, avant même de les ouvrir, ces romans, leur existence même montre des failles de cette société et de cet ordre moral critiqué, à savoir, ils viennent de manière clandestine ouvrir à une expérience initiatique tue par la société qui les entoure, ouvrir un espace de parole, une parole qui est donnée en tout cas aux personnages féminins, aux femmes donc d'une certaine manière.
Oui, oui, beaucoup de personnages sont féminins, même si les romanciers sont quasiment exclusivement, en tout cas à notre connaissance, masculins. Et beaucoup de personnages très importants sont féminins. On a des grandes figures de philosophes, hein. On a notamment Thérèse Philosophe, dont on va lire un extrait tout à l'heure. Et ce sont des personnages en fait qui évoluent au même titre que les hommes, qui ont un plaisir spécifique et dont finalement on suit le parcours au même titre qu'un homme. Enfin, il n'y a pas véritablement véritablement dire que les romans libertins sont misogynes ou donnent une place minime aux femmes, elles ont vraiment une importance et elles philosophent et elles conquièrent comme ça leur propre plaisir. Et quelque part, comme ce sont des romanciers masculins, on a l'impression qu'ils cherchent un petit peu à élucider le mystère du plaisir féminin, hein, même de l'anatomie féminine, qui est beaucoup moins connue à l'époque que l'anatomie masculine. Il y a vraiment une recherche comme ça de qu'est-ce qu'une femme, comment est-ce qu'elle peut éprouver du plaisir ?
Alors sur la question religieuse et la question morale, il y a une déculpabilisation vis-à-vis du plaisir de la chair, qui est un des premiers travaux critiques qui est fait par le roman.
Oui, oui, complètement.
Par le roman libertin.
Il y a l'idée que, étant donné que le plaisir sensuel est naturel, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas s'y adonner, et quels que soient nos penchants en la matière, hein, c'est naturel, donc c'est normal, donc la morale en fait finalement est contre nature, et c'est la nature qui doit nous dicter ce que, voilà, si ça nous plaît, c'est qu'on a le droit de le faire, c'est qu'on peut le faire, et la morale n'a rien à nous dire de ce point de vue-là.
Alors il faut peut-être expliciter ce point-là, le développer en tout cas, Colas Duflo, ses désirs sont naturels, donc ils émanent finalement directement de Dieu, et finalement suivre ses désirs n'est pas tout à fait péché, en tout cas c'est l'une des interprétations possibles.
Ah oui, oui, il y a un grand travail du roman libertin pour déculpabiliser le plaisir. Dans un des premiers romans donc de la fin du XVIIe siècle, qui s'appelle La religieuse en chemise, on voit et qui est un roman qui a été imité tout le long du siècle, on voit deux religieuses qui se rencontrent dans leur cellule, et à la faveur d'un orage, elles se donnent bien du plaisir, et puis évidemment la plus novice s'interroge, ce que nous avons fait, c'est mal, non, lui dit l'autre, et puis commence un dialogue où elle explique qu'au fond, si les couvents existent, c'est pour des raisons politiques, c'est parce que les familles ont besoin d'enfermer les filles pour garder l'héritage, etc. Donc il y a un démontage politique des injonctions religieuses. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste la nature, et la nature, au fond, quand ça nous fait du bien, et que ça ne fait de mal à personne, eh bien, d'une certaine façon, c'est signe que c'est quelque chose d'entièrement positif, quelque chose qui est pour la vie.
Alors, est-ce qu'ils ne font pas, d'une certaine manière, Élise Sultan-Villet, le travail que font tous les grands romanciers, même non libertins, à savoir prendre en charge la question humaine, à la fois physique et métaphysique, en tout cas, du haut jusqu'en bas, comme on peut le trouver dans la grande littérature ?
Oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'interrogations sur ce qu'est l'homme en général, et surtout qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux, en fait. C'est vraiment le but de ces romans que de suivre ces personnages et d'essayer de donner quelques lignes de conduite sur notre manière de conduire notre vie. Et ça interpelle aussi sur la manière dont on conduit la nôtre, même si, comme vous l'avez précisé dans la présentation, ce ne sont pas des romans qui sont prescripteurs. Donc à aucun moment il n'est question de prosélytisme à tout grain, de dire tout le monde doit être libertin. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas être libertin, hein, on n'est pas libertin qui veut, il faut avoir certains penchants pour ça, hein. C'est très précisé d'ailleurs.
Alors quels sont ces penchants-là ? Puisque du coup, si on ne prescrit pas une morale particulière, on vient en tout cas chambouler celle qui existe. Alors quelles sont justement les idées pour devenir un libertin ?
Il faut
avoir un penchant.
Alors, en fait, il s'agit de se dire que par ces romans-là, en fait, nous disent que d'autres morales sont possibles. Il n'y a pas que la morale ambiante orthodoxe, et qu'il y a d'autres modes de vie possibles. Maintenant, ce qui concerne la nature de ces penchants et la conformité de nos organes, pour reprendre les termes qui sont dans ces romans, on ne peut trop rien y faire, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, vu que ce sont des romans essentiellement d'éducation. Et en réalité, on nous dit aussi qu'il faut être né avec ce type de penchant, et que c'est dans notre corps, dans nos sens que ça s'est inscrit, et que finalement, on ne pourra pas les changer radicalement.
Donc là encore, la nature est questionnée. Colas Duflot, avant de nous lire quelques lignes de Thérèse Philosophe, peut-être en placer quelques, nous expliquer un peu le contexte hein, du personnage de Thérèse, qui va devenir philosophe et qui espionne depuis le buisson Eradis et le père d'Irag.
Oui, alors dans ce texte, donc la jeune Thérèse, dans le texte que nous allons lire, espionne l'abbé donc et
elle espionne les ébats.
Les ébats de l'abbé C et de Madame T. Donc les noms ne sont pas cités, hein, et donc ces deux personnages, d'abord, donc se rencontrent dans un buisson, puis ensuite dans une chambre parce que c'est plus confortable. Alors Thérèse se cache, les regarde. Donc il y a tout un dispositif au fond voyeuriste qui est le dispositif pornographique en lui-même, mais à l'intérieur de ces dispositifs pornographiques, mais une fois que les débats sont terminés, l'abbé et sa compagne se mettent à discuter. Alors, par exemple, de la religion, et puis, dans le texte que nous allons voir, de la nature.
Alors, petite parenthèse avant que vous commenciez à lire, c'est à la fois la mise en scène d'un prêtre et aussi d'une jeune femme dont il est de 30 ans son aîné. Donc, plusieurs questions morales sont justement traitées en même temps, si je puis dire, à travers la présentation des personnages. Colas Duflot. Plusieurs tabous sont mis en avant.
Oui, alors la différence d'âge, je pense, n'est pas vraiment un tabou au XVIIIe siècle. La scène à laquelle vous pensez est une scène qui se situe avant et qui est plus critique, où on voit un abbé, en effet, qui viole une pénitente, une jeune pénitente, en lui faisant croire qu'il va la purifier par le fameux cordon de Saint François. Et en réalité, il la viole. Et alors ça, c'est une scène tout à fait scandaleuse. Et cet abbé-là, enfin ce prêtre-là, représente le mal. Enfin,
y compris dans le roman,
il est condamné. Alors qu'à l'inverse, dans Thérèse Philosophe, le bon abbé et la dame qui l'accompagne vont présenter plutôt une sorte de nouvelle honnêteté. Comment peut-on avoir une morale qui n'est pas chrétienne, mais en même temps une morale honnête d'une certaine façon ? On respecte ses voisins, on respecte les lois, et ça n'empêche pas...
Un plaisir qui ne fait pas de mal à autrui.
Voilà. Donc il y a toute une insistance sur comment constituer une morale qui soit au niveau de la société, immanente à la société d'une certaine façon. On ne dérange pas l'ordre, au contraire, on aide son prochain, etc. Et non pas une morale transcendante qui nous viendrait de Dieu, d'une certaine façon.
Alors, on vous écoute lire Thérèse Philosophe.
Oui, alors donc Thérèse espionne l'abbé et sa compagne, et sa compagne lui dit, mais rappelez-vous, vous m'aviez promis une leçon sur la nature. Alors, il décrit ce qu'est la nature. Pourquoi ne pas convenir une bonne fois que la nature est un être de raison, un mot vide de sens, que tout est de Dieu, que le mal physique qui nuit aux uns sert au bonheur des autres, que tout est bien, qu'il n'y a rien de mal dans le monde eu égard à la divinité, que tout ce qui s'appelle bien ou mal moral n'est que relatif à l'intérêt des sociétés établies par les hommes, mais non relatif à Dieu, par la volonté duquel nous agissons nécessairement d'après les premières lois, d'après les premiers principes du mouvement qu'il a établi dans tout ce qui existe. Un homme vole, il fait du bien par rapport à lui, du mal par son infraction à l'établissement de la société, mais rien par rapport à Dieu. Cependant, je conviens que cet homme doit être puni, quoi qu'il ait agi nécessairement, quoique je sois convaincu qu'il n'a pas été libre de commettre ou de ne pas commettre son crime. Mais il doit l'être parce que la punition d'un homme qui trouble l'ordre établi fait mécaniquement, par la voie des sens, des impressions sur l'âme, qui empêchent les méchants de risquer ce qui pourrait leur faire mériter la même punition, et que la peine que subit ce malheureux pour son infraction doit contribuer au bonheur général, qui est préférable dans tous les cas au bien particulier.
Alors on voit justement que dans cette question, Élise Sultan-Villiers, des normes finalement, en les critiquant, on essaie de les repositionner en même temps dans le texte.
Oui, étonnamment, on n'a pas que des textes licencieux qui chamboulent toute morale en faisant table rase. Il y a d'autres propositions qui sont faites, et notamment dans Thérèse Philosophe, c'est assez flagrant. Il y a vraiment même une forme de conformisme. À la fin, Thérèse vit maritalement avec son dernier conjoint. On a l'impression même qu'elle arrête toute forme de libertinage, et il y a effectivement une insistance sur le respect des lois établies, sur le fait de faire son propre bonheur d'accord, mais pas en désaccord avec celui des autres. Donc c'est assez étonnant, et c'est pas assez loin d'être le seul cas. On n'a pas effectivement que les textes qui sont immoraux. Il y a vraiment
en tout cas, c'est une nouvelle morale qui
exactement,
est prônée.
Exactement, c'est une nouvelle morale qui naît et qui est respectueuse des goûts de chacun, mais tout en il faut quand même qu'on puisse vivre quand même tous ensemble, ce qui ne sera pas le cas plus tard des textes de Sade. Sade prendra pour modèle Thérèse Philosophe, mais dira que c'est un ouvrage qui n'est pas allé assez loin justement dans l'immoralisme, vu que lui ça donnera justement au côté destruction totale de toute norme pour détruire la norme avec une puissance de destruction beaucoup plus fort.
Un plaisir tyrannique.
Oui, tout à fait.
Colas Duflot, à travers justement le texte que vous venez de nous lire, d'ailleurs merci de l'avoir fait, c'est l'identité de l'âme et du corps qui sont discutées. Alors, cette théorie philosophique du monisme matérialiste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette idée-là dans le texte?
Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans ce texte, c'est d'abord, je rappelle que on l'a entendu, c'est une dissertation de philosophie, mais elle est dans un roman qui raconte aussi les ébats des différents personnages, différentes configurations hétérosexuelles, homosexuelles, etc. Donc c'est vraiment un roman qui est d'abord fait pour le plaisir du lecteur, d'une certaine façon, et qui a connu une diffusion extraordinaire. Et donc il date de 1748 et il a été diffusé durant tout le 18e siècle. Donc on est vraiment dans un roman. Et dans ce roman, on a une sorte de cours complet d'introduction à la philosophie des Lumières hétérodoxes, qui est une forme de spinozisme, on pourrait dire, de spinozisme tel qu'on l'entend au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qui ne suppose pas une lecture précise de Spinoza, mais qui récupère des thèmes spinozistes. Par exemple, Dieu et la nature, c'est la même chose. Il n'y a pas de liberté au sens libre-arbitre, toutes nos actions sont déterminées par nos organes, par notre éducation, etc. L'âme et le corps, ce n'est pas deux choses différentes, etc. Donc c'est un monisme matérialiste, monisme au sens où il n'y a qu'une seule substance, c'est la matière, c'est le corps. C'est un déisme au sens où il y a un Dieu ordonnateur de tout.
Ce corps, ces états du corps déterminent tout.
Les états du corps, bien sûr, les états du corps nous déterminent. Alors, comme on le voit d'ailleurs dans cet exemple, c'est intéressant. On a affaire à un texte qui part de la nature et qui arrive à la liberté. Ou plutôt à l'absence de liberté. Un homme vole, il fait du bien par rapport à lui, du mal par son infraction à l'établissement de la société, rien par rapport à Dieu. Du point de vue de Dieu, tout est égal. Néanmoins, et de toute façon, ce que cet homme fait, il le fait de façon déterminée. Néanmoins, il doit être puni. Il doit être puni, pourquoi ? Parce que la punition fait partie des causes qui agissent sur les volontés. C'est pas seulement le corps, c'est notre éducation. Donc il est puni parce que c'est de façon immanente. Celui qui est puni, il ne recommencera pas, ou du moins on peut l'espérer. Et puis la société qui voit l'exemple de la punition s'éduque elle aussi. Donc la punition fait partie des causes qui vont nous déterminer à agir bien, etc. Donc finalement, on n'a pas besoin de la liberté pour penser le lien social, pour penser la morale, pour penser la responsabilité. On peut se passer de ces idées superflues. Et surtout, ce qui est en arrière-fond, c'est évidemment que la liberté est au cœur de la doctrine chrétienne du péché. Et c'est de ça qu'il faut se libérer.
Alors le péché, le vice sont des inventions des hommes finalement, tout voilà. Comme la religion, Élise Sultan-Gillet.
Oui, tout à fait. Hein. Il y a un fameux manuscrit clandestin qui s'appelle le traité des trois imposteurs. Et les trois imposteurs, ce sont ni plus ni moins que Moïse, le Christ et puis Mahomet. Hein. En fait, il y a l'idée que la religion en fait, a été inventée pour manipuler les hommes par des imposteurs. Et il y a vraiment une haine de ce point de vue-là du monde clérical. Et il y a aussi le fait que ce soit les hommes religieux qui entreprennent l'éducation. Et comme les romans libertins contrefont les éducations de l'époque, et ils sont obligés de défaire en fait ce qu'ont fait les hommes religieux qui ont culpabilisé les jeunes gens par rapport à leurs plaisirs. Et donc, ce sont un peu leurs ennemis de ce point de vue-là aussi.
Hein. Alors, on va reparler un peu de la forme de ces romans libertins. On a parlé des romans un peu mémoire, des confessions amoureuses qui s'intercalent avec le discours philosophique. Il va y avoir d'autres formes, notamment des formes épistolaires qu'on va retrouver.
Oui, les formes sont très très variées. C'est un corpus qui est très hétérogène, qui est difficile à saisir aussi de ce point de vue-là. Vu qu'on l'avait vu, il peut y avoir des contes aux orientaux, il peut y avoir des échanges épistolaires, il y a beaucoup de romans mémoires, donc écrits à la première personne, qui sont en fait des mémoires fictives, hein, où on suit une fausse biographie d'un personnage.
Donc il y a tout un jeu littéraire.
Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, c'est très riche d'un point de vue formel, aussi d'un point de vue littéraire. Et ça fait écho aussi aux formes de l'époque, hein, vu que le roman mémoire, par exemple, c'est un genre très répandu, avec des romans de Prévost, par exemple, ou de Marivaux. En fait, il y a aussi pour idée de parodier des genres connus à l'époque et de les subvertir aussi, comme ils ont subverti le moyen de philosopher, ils subvertissent aussi la littérature en les détournant de leurs prétentions morales. Ils jouent aussi avec les formes existantes.
Hein. Alors avec les formes et puis les formes narratives, mais aussi avec le vocabulaire, le langage, puisque le roman pornographique offre un renouvellement aussi du langage.
Oui, il y a tout un panel, il y a tout un jeu autour des mots qui sont utilisés. Vous avez les romans libertins ont été souvent classés entre les romans qui avaient un style grivois et d'autres qui utilisaient une langue qu'on disait gazée, c'est-à-dire dont on voilait finalement ce dont on parle.
Métaphorique.
Il y avait quelque chose de métaphorique et vous avez des romans qui sont très très crus dans le vocabulaire utilisé. Il y a beaucoup de leçons de vocabulaire aussi qui sont données aux jeunes gens, qu'est-ce qu'un con, qu'est-ce qu'un vie, etc. Donc c'est assez amusant de ce point de vue-là et ça fuse, au niveau des... Il y a pas mal de jurons aussi.
On va écouter un extrait d'une lecture de Histoire de Dom Bougre qui est lue par Pascaline Bonnet.
Toute jeune que j'étais quand ma mère, après la mort de son quatrième mari, vint demeurer dans ce couvent en qualité de dame pensionnaire, je ne laissais pas d'être effrayée de la résolution qu'elle avait prise. Sans pouvoir distinguer le motif de ma frayeur, je sentais qu'on allait me rendre malheureuse. L'âge, en me donnant des lumières, m'éclaira sur la cause de mon aversion pour le cloître. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, la vue d'un homme. Du simple regret d'en être privé, je passais bientôt à réfléchir sur ce qui pouvait me rendre cette privation si sensible. Qu'est-ce donc qu'un homme ? Disais-je. Est-ce une espèce de créature différente de la nôtre ? Quelle est la cause des mouvements que sa vue excite dans mon cœur ? Est-ce un visage plus aimable qu'un autre ? Non. Le plus ou le moins de charme que je trouve n'excite que plus ou moins d'émotion. L'agitation de mon cœur est indépendante de ses charmes, puisque le père Jérôme lui-même, tout désagréable qu'il est, m'émeut quand je suis près de lui. Ce n'est donc que la seule qualité d'homme qui produit ce trouble, mais pourquoi le produit-elle ? Quelquefois, je m'enfermais dans ma chambre, je m'y livrais à mes réflexions. Elles me tenaient lieu des compagnies où je me plaisais le plus. Qui voyais-je dans ces compagnies ? Des femmes. Et quand j'étais seule, je ne pensais qu'aux hommes. Je sondais mon cœur, je lui demandais raison de ce qu'il sentait. Je me déshabillais toute nue. Je m'examinais avec un sentiment de volupté. Je portais des regards enflammés sur toutes les parties de mon corps. Je brûlais, j'écartais les cuisses, je soupirais. Mon imagination échauffée me présentait un homme. J'étendais les bras pour l'embrasser. Mon conin était dévoré par un feu prodigieux. Je n'avais jamais eu la hardiesse d'y porter le doigt. Toujours retenu par la crainte de m'y faire mal, j'y souffrais les plus vives démangeaisons sans oser les apaiser.
Alors on entend justement ce vocabulaire à demi-voilé dont vous nous parliez, Élise Sultan-Gillet. Il y a aussi le travail de l'imagination, puisque le lecteur voyeur, avec cette idée de circulation des plaisirs entre le lecteur et le narrateur, va finalement faire un travail d'imagination qui est celui de la littérature, qui est encore plus aigu parce que la question sexuelle est évoquée.
Oui, tout à fait. Là, dans cet extrait, on voit que le personnage, en fait, s'auto-expérimente le plaisir en projetant des fantasmes de représentation d'hommes. Et finalement, ça rejoint quelque part ce que le lecteur va être amené à faire, vu qu'il va être amené au cours de sa lecture à se représenter les choses qui sont évoquées, à les imaginer. Et l'imagination joue un très fort rôle pour l'excitation des personnages et aussi pour la compréhension de ce qui se passe. Hein. C'est vraiment une étape aussi sensoriel, ça fait partie aussi de la connaissance de la situation.
Et de l'initiation, la dimension initiatique, à savoir là on parle de la masturbation féminine, sujet tabou, on ne peut plus tabou, même dans la littérature libertine n'est pas évoqué si fréquemment.
C'est un sujet qui est évoqué très, très régulièrement, la masturbation. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été rapproché de la lecture, de l'effet de la lecture. Il y a beaucoup de traités qui sont contre la masturbation à l'époque, notamment les traités de Tissot ou de Bienville, où on a pointé du doigt les effets néfastes de la masturbation. Et en parallèle, il y a les effets néfastes aussi de la lecture, vu que on sait très bien que les récits libertins visent à mettre feu au lecteur, hein, le feu au lecteur, et ça c'est quelque chose qui est considéré comme considérablement dangereux du point de vue de la morale de l'époque.
Alors l'histoire d'ailleurs de la critique religieuse est intégrée dans le texte, hein, avec la peur de ce que pourrait faire la masturbation, qui est en fait l'éducation religieuse et ses effets sur le corps.
Oui, tout à fait. En fait, ce sont des interdits qui ont été tellement véhiculés par l'éducation que les personnages ont du mal à s'en défaire. Hein, et c'est quelque chose qui est très très fort. Et c'est pour ça que les discours viennent après, quelque part, réinsister sur le fait qu'il faut se libérer de tous ces interdits qu'on a pourtant intégrés depuis si longue date. Il y a quelque chose comme... c'est vraiment ancré dans les personnages. Ils sont en lutte aussi avec eux-mêmes. Hein. Parfois, on voit des personnages qui sont en pleine polémique interne sur à la fois le plaisir naturel qu'ils ressentent et tous les interdits qu'ils ont pourtant ingérés depuis leur putain d'enfance. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils demandent conseil au maître libertin en leur demandant raison de tous ces débats internes.
Hein. Nicolas Duflo, peut-être quelques mots sur le livre lui-même, hein, l'histoire de Dom Bougre.
C'est un texte tout à fait génial de provocation, hein, donc c'est un texte de 1741, donc c'est très tôt dans les Lumières, qui manie une langue crue, on en a eu un échantillon, il y a des textes encore plus crus, et donc qui va contre les normes classiques, hein, contre le langage châtié de ce que devrait être la littérature. Donc il y a un plaisir de renverser la table d'une certaine façon dans la langue, et puis qui manie des idées tout à fait renversantes, puisque à partir de ces, il va faire varier les points de vue. Il y a Dom Bougre qui raconte ses mémoires, et puis il rencontre sa sœur qui à son tour lui raconte ses aventures. On en a entendu un morceau, et puis etc.
Oui, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme au départ. Oui. Saturnin.
C'est Saturnin qui voit d'abord celle qu'il imagine être sa mère et un prêtre. Il les observe dans le trou à travers le trou d'un mur et il voit une scène tout à fait obscène. Et puis voilà, à partir de là commencent des aventures truculentes, un peu dans la veine du roman picaresque. Mais au fur et à mesure, le roman devient de plus en plus anticlérical et de plus en plus radical dans son interrogation sur les normes morales, puisque Dom Bougre, hein, le bougre, c'est l'homosexuel, hein, on va s'interroger sur le ou en tout cas, le texte va interroger le lecteur sur, au fond, à partir du moment où on est libéré des préjugés religieux, eh bien, qu'est-ce qui est condamnable? Est-ce que l'homosexualité est condamnable? Alors non, Dom Bougre va faire l'éloge du cul des novices. Le texte va même jusqu'à interroger dans un passage tout à fait à la limite, qui est presque entre parenthèses d'une certaine façon qui est placé dans une parenthèse comique, le texte va même jusqu'à interroger l'idée d'inceste. Au fond, qu'est-ce qui, sur quoi est fondé l'interdit de l'inceste? Et puis après, il n'y a pas de conclusion.
Hein, ce déplacement des normes est permanent.
Voilà. Et donc, au fond, ce déplacement des normes vise à déranger le lecteur. Tout dans le texte vise à déranger le lecteur. La langue, les normes morales, les questions philosophiques posées.
Mais alors,
le texte
questions...
ne conclut pas. Enfin, c'est vraiment un texte très étonnant. Et surtout très étonnant quand on pense qu'on est en 1740. C'est-à-dire bien avant les textes les plus radicaux de Diderot, comme le supplément au voyage de Bougainville, qui va circuler seulement sous forme manuscrite et beaucoup plus tard.
Il est Sultan Villiers, il y a quand même, même s'il n'y a pas de philosophie systématique proposée, il y a quand même une sorte d'ode au plaisir que l'on retrouve dans tous ses romans.
Oui, c'est vraiment la ligne directrice. Le but, c'est vraiment de savoir comment faire pour être heureux. Et rechercher le plaisir sensuel, ça fait partie des voies possibles. Mais en même temps, ce n'est pas une philosophie qui est systématique, dans la mesure où il y a même des passages qui sont à la limite de l'incohérence. C'est, en fait, on a l'idée de proposer des bribes, voilà, des thèses, mais on n'échafaude pas pour autant un système, parce que les romans libertins, en fait, sont contre la philosophie canonique, hein, contre la philosophie dogmatique. Vous avez beaucoup de passages qui sont anti-philosophiques, parce que pour eux, la philosophie, ça doit pas passer par, justement, une forme d'essai cohérente avec des démonstrations bien fichées, etc. Il y a vraiment l'idée aussi d'échafauder des pistes, de donner en fait au lecteur les armes critiques pour essayer de parcourir comme ça son mode de vie. Mais
alors c'est un individualisme d'une certaine manière qui est prôné aussi.
En fait, c'est moins un individualisme que de dire au lecteur de se libérer de ses préjugés et d'utiliser son esprit critique pour naviguer dans la philosophie, dans ce qu'elle propose. Mais il ne propose pas pour autant une philosophie. On ne pourra pas publier un ouvrage qui s'appellerait La philosophie des romans libertins. Déjà, ce serait trop hétérogène, et d'autre part, ce serait complètement anti-libertin. Il propose en fait, ce sont vraiment voilà, des propositions, des pistes qui ne sont pas prescriptives, pas volontairement positives. Hein. C'est vraiment une pensée qui est mouvante, qui peut être rapprochée même de la pensée, par exemple, de Montaigne ou des choses comme ça, où il y a pour idée de ne pas figer en fait, un système. C'est à chacun de faire sa propre interprétation, de prendre ce qui est donner à penser et à composer avec ça.
Alors justement, un dernier mot, Colas Duflot, c'est la question de la clandestinité. Leur statut justement clandestin à ces romans vont faire que le scandale qu'ils vont générer va être aussi fort de par leur statut que de par leur contenu. Alors comment est-ce que justement on peut envisager cette question-là avec celle de la transmission aussi de ces idées qui ont circulé grâce à ces romans?
Alors, la clandestinité, au fond, c'est une vieille affaire des libertins, puisque depuis le XVIIe, les libertins font circuler des manuscrits clandestins. Ici, on a affaire à des textes qui sont des textes imprimés. Alors, ça change évidemment leur statut. Hein, donc, des textes qui vont circuler assez largement. Et la clandestinité a un peu un double effet. C'est-à-dire, certes, ça complique beaucoup la circulation des textes, mais c'est aussi un argument de vente. On a plaisir à acheter un texte interdit qui raconte des choses interdites, tant sur le plan philosophique que sur le plan des descriptions. D'une certaine façon, c'est aussi une publicité, l'interdiction des textes.
Dont ils ont profité.
Oui.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Colas Duflot, je rappelle que votre ouvrage Philosophie des pornographes est publié aux éditions du Seuil. Quant à vous, Élise Sultan-Villiers, vous êtes l'auteur d'une thèse, Les romans libertins ou la philosophie des sans dessus dessous, à paraître chez Honoré Champion en 2020.
Sit down.
Calypso Rose, Calypso Blues, la chanson Calypso Blues écrite par Nat King Cole et revisitée ici par Calypso Rose, extrait de l'album de Queen of Trinidad sorti en 2012. Calypso Rose sera en concert demain, 31 juillet, au festival Fiesta à 7, le 2 août au festival Reggae Ska à Verteuil et le 4 août au festival à Trelins. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de La Grande Table avec pour invité Emma Lacloune. Le laurier, arbre moyen, le ou, sans oublier le X, le bouleau, un arbre clair de partout. Voilà comment Emma Lacloune raconte les arbres dans son spectacle Bottin botanique, repris pour le festival Humour et Eau Salée, avec science et poésie. Un art que le personnage de Myriam Menant déploie depuis 25 ans, son nez rouge pointé sur le monde. Myriam Menant, alias Emma Lacloune, est aujourd'hui parmi nous pour le portrait de la grande table d'été. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, je vous laisse continuer sur les arbres, puisque j'ai commencé, mais je n'avais pas la suite du texte, allez-y.
Vous voulez lequel? J'en ai plusieurs, j'en ai 32 espèces d'arbres. C'est pas une insulte, hein, espèce d'arbre. Alors, je peux vous faire le peuplier, par exemple.
Le peuplier.
Voilà, le peuplier est un arbre très grand et tout maigrichon. En fait, il ne pense qu'à monter au ciel, il ne veut pas s'étaler. Le peuplier vit en bande, d'où son nom. D'ailleurs, on en fait des allumettes et des sabots pour les petites gens. Le peuplier, on le reconnaît la nuit quand il pleut à son odeur qui sent bon fort les feuilles et l'eau. Des fois, il est noir, des fois, il est argent, avec des feuilles brillantes en argent, mais on en fait quand même des allumettes et des sabots pour les pauvres, c'est la coutume. Si on est très maigre, on peut jouer à cache-cache. Mais il faut être maigre. Et si on est gros, faut pas y grimper dedans. Avec le vent, ses feuilles font un bruit particulier. Voilà, ça c'est net.
Et alors, quand Emma Lacloune se met à parler, la voix change.
Ah place. Oui, là, je le fais pas parce que bon, on est dans un studio, je veux pas abîmer les murs, enfin, avec l'onde sonore, mais c'est un peu plus fort, un peu plus aigu, un peu plus tout, quoi.
Alors, votre personnage, Emma Lacloune, qui existe depuis à peu près 25 ans.
Ah, je vais fêter les 30 ans en 2021.
Bientôt 30, oui, dans 3 ans. Vous l'emmenez justement parler des arbres. Et pour ces arbres-là, c'est un bottin, une sorte de livre scientifique avec lequel elle s'amuse.
Bah, disons, en fait, c'est Denis Lecas, d'ailleurs, qui est aussi le programmateur du festival où je vais, le festival Humour et Eau Salée, qui était à l'époque, en 2007, je crois, directeur de la Roche-Jagut, programmateur du château de la Roche-Jagut dans les Côtes d'Armor. Et il savait mon amour pour les arbres, donc il m'a demandé, est-ce que tu peux faire des petites cartes postales? D'un côté, il y a une photo d'Emma Lacloune avec l'arbre, et de l'autre côté, il y a l'arbre, la description d'Emma. Donc, je m'y suis collée, j'avoue que j'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup inspirée d'un très bel ouvrage de Pierre Liotagui qui s'appelle Arbre, arbrisseau, arbuste, voilà, très très beau, très poétique aussi, bien sûr, Francis Allais. Et j'ai écrit donc 32 espèces d'arbres où je m'amuse à la fois à dire ce que c'est vraiment, enfin ce que c'est, ce que les botanistes en ont dit, et aussi moi, ma version un tout petit peu poétique et humoristique.
Là. Alors il y a des vrais critères, critères. D'abord, vous ne choisissez pas d'arbres exotiques.
Oui, c'est que des arbres de nos contrées.
Qu'on voilà. peut voir
à l'œil nu.
À l'œil nu.
Tout à fait.
Et vous proposez une sorte de randonnée, en tout cas ça se passe en plein air, le spectacle?
Oui, ça, les gens vont partir d'un endroit, d'un Saint-Georges, je pense que c'est au niveau de la plage, ils vont marcher pendant 2 kilomètres, ça va, c'est à 10h du matin, il n'y a pas le soleil qui va trop cogner, ils vont arriver dans le parc de l'estuaire, et là je vais être quelque part, sous un arbre, avec ma lecture, avec mes feuilles, et puis d'autres bêtises aussi, bien sûr, parce que je ne peux pas m'empêcher.
Cette expérience, Myriam Menant, justement de faire, je dirais pas du cirque, mais du spectacle dans la nature, c'est quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. Vous ne faites pas un clown qui utilise beaucoup son corps, c'est plutôt un clown qui parle. Mais là, le fait d'être dehors dans cet espace naturel, ça fait partie du spectacle.
Oui, bien sûr. De toute façon, de jouer en extérieur, moi j'aime beaucoup la rue. J'ai aussi un spectacle de rue hein, qui s'appelle où je fais des sciences occultes. Mais là, c'est très particulier parce que c'est vraiment très très simple et c'est sous un arbre de préférence, et je trouve que le rapport à la nature, il est vraiment très nourrissant, c'est, oui, je dis ça en français, à la fois pour moi, à la fois pour le public aussi, parce que forcément, je vais faire des remarques, je vais improviser sur ce qui se passe autour, s'il y a des mouettes, à mon avis, il y a des mouettes qui vont traverser, c'est sûr, il va y avoir des choses qui vont se passer, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun, quand on est en contact avec la nature, il y a un calme qui vient, il y a une espèce de chose beaucoup plus simple et humble, qui fait qu'on... qu'on est ensemble autour de cette petite œuvre là, mais c'est aussi je dirais que le rapport à la nature, je trouve très important. D'ailleurs, je fais aussi les dialogues en humanité qui ont lieu le premier week-end de juillet à Lyon. C'est pareil, c'est au parc de la Tête d'Or sous les arbres. Et c'est vrai que, enfin, je fais ça un tout petit truc. Moi, je fais rien à côté de tout ce qui se passe là-bas pendant ces dialogues. Mais je trouve quelque chose avec la nature, ouais. Ouais, c'est sûr, de toute façon.
Et qui est lié à l'improvisation aussi, parce que vous jouez beaucoup de cet aspect-là aussi, même si vos spectacles sont écrits. Il y a toujours ces interactions, alors là, avec le public et la nature.
Absolument, hein, ce qui va se passer, oui.
Double interaction. La nature, elle est arrivée dans vos textes à plusieurs reprises, et les questions écologiques.
Je pense qu'elle est arrivée dans ma vie dès ma naissance, hein. J'espère que c'est le cas un peu de tout le monde, mais par rapport à l'artistique, c'est vrai que je me suis d'abord occupée de l'humain, de l'état du monde, après l'état du monde intérieur avec la psychanalyse.
Un gros travail déjà.
Un gros travail, oui, ça c'est sûr. Ensuite avec la science, la physique quantique, j'ai fait un spectacle là-dessus, l'univers. Et oui, avec Catherine Dolto, avec qui je fais des conférences magnifiques, et on a fait un spectacle donc qui s'appelle Zhumain. Sur l'écologie en 2015. Comme par hasard, ça tombait en même temps que la COP21 à Paris, là. Et c'est vrai qu'on a pu se rendre compte avec Catherine combien la situation était encore pire que ce qu'on veut bien nous présenter, quoi. Donc c'est sûr que la nature, je crois que c'est une nécessité d'en parler. C'est pas seulement un plaisir, une satisfaction personnelle. C'est aussi parce que je pense que quand on est artiste, il faut un petit peu aborder des choses qui dérangent, quoi.
Ce personnage d'Emma, finalement, de par sa posture questionnante, il permet d'aborder beaucoup de choses à travers une sorte d'humour un peu à la fois naïf et un peu glacé aussi.
J'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance d'avoir ce Emma la clown que je trimballe depuis tellement longtemps parce que, en fait, le clown a cette chose qui est vraiment très agréable, c'est qu'elle peut se permettre de parler des choses très sérieuses, mais avec beaucoup de naïveté. Mais ça n'empêche pas la connaissance quand même derrière et d'avoir un vrai propos un peu engagé. Mais c'est aussi, on peut faire entendre des choses que si j'étais sérieuse, si j'avais pas mon nez, si je me prenais un peu au sérieux, ce serait pas supportable, on s'ennuierait beaucoup. Et la résonance du clown en chacun, c'est effectivement cette part d'enfance et de naïveté, de candeur, qui n'est pas de la mièvrerie du tout, hein, qui est vraiment quelque chose de sincère et d'humble, et de profond, que tout le monde a. Donc forcément, ça touche, et j'en profite beaucoup, parce que je fais même des spectacles sur la physique quantique, sur des conférences mathématiques, et là, à la rentrée, je vais faire encore d'autres trucs, donc je me gêne pas, oui, c'est vrai.
C'est même très scientifique, la plupart du temps, en tout cas, il y a un aspect.
Ah, oui, comme alors que j'étais nulle, je me souviens avoir eu un 2 en physique, je sais plus en quelle classe, au lycée. Non, je me rattrape. Je remercie, enfin, Emma la clown, la vie, je sais pas, l'univers, j'en sais rien, mais de pouvoir me rattraper comme ça et d'apprendre beaucoup de choses avec un autre biais que sont les études classiques, quoi.
Alors, est-ce que justement ce prisme très ancré, très scientifique, par exemple, le bottin, le bottin scientifique, ça permet justement cet éloignement poétique, c'est-à-dire ne serait-ce que le langage, ne serait-ce que les noms des arbres, ne serait-ce que la racine des choses et leurs caractéristiques. Alors là, à chaque fois, ça permet de déployer un personnage, un arbre vivant.
Oui, et puis surtout que je me moque un peu des gens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le public, par exemple, quelqu'un de très maigre. Je dis, tiens, c'est le peuplier, ou quelqu'un, une femme qui a les cheveux un peu bouclés, et je dis, tiens, c'est le chêne. Bien qu'à un moment donné, je regarde longtemps et je dis, il n'y a pas de charme. Voilà, donc c'est vrai que je peux m'amuser avec plein de choses, oui. Et puis mon amour pour les arbres, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher forcément de le donner, parce que je finis par exemple avec l'être, qui est le dernier arbre allumé avant l'hiver. C'est le seul qui a encore les feuilles avant l'hiver. C'est tout ce que... En fait, je crois que je parle que d'amour, en fait. Finalement, j'aborde des côtés scientifiques, mais tout mon fond de commerce, j'aime pas ce mot-là, mais... Tout ce qui me motive, tout ce qui m'habite, c'est vraiment l'amour, quel qu'il soit, quoi. L'amour de soi-même, l'amour de la nature, l'amour des autres, l'amour de l'univers, enfin voilà. Et les arbres, ça en fait partie aussi. Il y a toujours ça en fond de toi, en toile de fond.
En tout cas, Emma la clown, à travers sa technique de clown humoristique, elle a aussi un positionnement, vous me direz comme tous les clowns, assez métaphysique.
Sinon je m'ennuie, quoi. Enfin, je veux dire, l'anecdotique, je trouve que c'est pas très intéressant. Ça va comme ça en soirée pour rigoler. Mais sinon, je pense que si on n'est pas habité par des thèmes forts, transcendants, donc métaphysiques un peu, forcément, y a pas grand-chose à raconter, je trouve. Enfin, bon, je suis désolée. Mais
je vous propose d'écouter Denis Lavant qui en parle du clown. C'était sur France Culture et c'était le 23 janvier 2019.
C'est lui qui renvoie à toutes les maladresses. C'est-à-dire, il fait rire parce qu'il surprend l'être humain en flagrant délit de bêtises, de folies, d'excès, d'abus, de tout ça. La clownerie, c'est l'excès humain par excellence, hein, mais qui est montré comme un miroir. Et donc, on dit, c'est pas moi, mais en fait, les gens, ils rient d'eux-mêmes. C'est ça qui est formidable. Et la différence que j'adore dans le clown, la différence pour moi des humoristes ou des comiques contemporains qui ont tendance à faire rire en se moquant de l'autre, ouvertement, en prenant à partie le public contre quelqu'un d'autre, contre un comportement. Or le clown, il fait rire en se moquant de lui-même. C'est lui qui prend la charge. Et ça, c'est merveilleux. Quand je vois, c'est ce qui m'a épaté quand j'ai découvert Grock, ce grand clown poétique, musicien, acrobate. C'est-à-dire, il est dans la naïveté et l'autodérision lui-même. C'est lui la bête, quoi. Et ça, c'est génial. C'est une figure irremplaçable.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire, ce côté à la fois inadapté du clown et sa posture critique?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je rajouterais en plus l'amour toujours qui porte le clown, parce qu'il y a aussi des clowns qui sont un peu plus trash, qui s'apparentent plus, pardon, au bouffon. Mais effectivement, oui, c'est faire rire avec notre propre dérisoire, comme dit Catherine Dolto. C'est pour ça que les gens aiment tellement cette personne, ce personnage-là. C'est parce qu'effectivement, ça leur renvoie à leur propre incapacité, incompétence, inadaptation, voilà.
Alors vous, votre clown, quand vous l'avez créé, votre personnage d'Emma, comment est-ce que justement il a été façonné? Il a des caractéristiques physiques, hein. Il n'est pas simplement grimé, il y a la jupe plissée. D'ailleurs, le nez n'est pas tout à fait rouge, hein. Il est un peu lit de vin. Quels étaient ces accessoires et à quoi ils correspondaient pour vous?
En fait, c'est un hasard total. Peut-être qu'un jour, un jour si, c'est sûr, parce que je vais mourir un jour. Donc, je pense que je regarderai en arrière, je me dirai, tiens, comment tout ça est arrivé? Ah, tout ça avait du sens, finalement. Parce que moi, j'ai eu envie de faire du théâtre quand j'avais 13 ans, en fait. J'ai fait du théâtre au collège, on était en quatrième au Mans. Et en fait, à la fin de l'année, donc on a présenté le spectacle. C'était un texte de Françoise Sagan qu'on avait monté avec les collègues, enfin les
camarades.
Camarades, merci, je sais plus comment on dit à cette époque-là. Les camarades. Et quand j'ai joué, j'ai fait rire. Donc c'était une déflagration interne énorme. C'est-à-dire, j'ai vraiment ressenti que c'était déjà un vrai rire, pas un rire moqueur ni un rire complice. Et j'ai vraiment senti que je me suis dit, si c'est ça la vie, moi j'aime bien. Si c'est ça être vivant, ah, ça m'intéresse. Parce que je jouais beaucoup, mais très solitaire. Et donc je me suis dit, à partir de cet âge-là, donc 13 ans, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du théâtre. Et à 20 ans, j'ai fait l'école Jacques Lecoq, où on aborde le clown en toute fin de deuxième année. Et puis après, en fait, je n'ai pas fait un clown particulièrement intéressant. Mais en première année, pendant 6 mois, on ne parle pas. Et après, le coq nous dit, bon, vous venez après les vacances de Pâques, vous venez avec un personnage, ce que vous voulez, voilà. Et enfin, on ne parle pas parce qu'on fait des trucs qui font qu'on ne parle pas, hein. On n'est pas interdit de parler, hein. Et donc, je suis venue avec la chemise et la jupe d'Emma la clown, sans savoir du tout que je m'en servirais plus tard. Donc j'ai fait un personnage, voilà, un peu coincé, qui s'appelait Agathe. Et ensuite, à la fin de deuxième année, on a fait du clown. J'ai pas du tout fait ça, j'ai fait autre chose. Et puis l'école Lecoq est une géniale école, mais qui coûte très cher. Donc quand on termine, on n'est pas riche. Donc en sortant à la fin de l'année, il y a un copain américain qui a fait Lecoq. Il m'a dit, est-ce que tu veux jouer dans le métro avec moi? On fait de la musique tous les deux. Tu vas acheter un petit xylophone parce que je faisais de la percu. Moi, j'ai du ukulélé. On va jouer dans le métro l'été, quoi. Donc j'ai fait ça et on s'est déguisé, c'était pas encore un costume, en clown, puisqu'on n'était pas super bon musicien non plus, quoi. Donc j'ai fait ça tout l'été. Il est rentré aux États-Unis. Il a été remplacé par un ami italien qui a fait aussi le Gaetano Lucido, qui a fait la même école. Et après, de cette expérience du métro, on n'est pas resté longtemps, on est ressorti, on a fait un duo tous les deux. Et c'est là où j'ai commencé à ramener, tiens, la jupe et la chemise d'Emma. La cravate, j'ai trouvé au puce de porte de Montreuil. C'est écrit Perestroïka dessus. Il paraît que du temps de Gorbatchev, tous les enfants avaient ça, tous les écoliers avaient ça. Je savais pas. Le chapeau, c'est un truc qui vient d'un fait du Parti communiste dans lequel Don Gaetano avait joué.
Ouais, il y avait quand même une dimension politique forte, hein.
Oui, peut-être c'est pour ça d'ailleurs que je parle comme ça depuis que j'ai le chapeau, que je suis engagée comme ça, je sais pas. Les chaussures, je les avais quand j'avais 16 ans. Et puis les chaussettes, je les ai achetées aux Emmaüs de Brive-la-Gaillarde. Donc c'est quelque chose de très ancien. Il y a que le nez que je fabrique et que je transforme. Et les chemises que je rachète parce qu'elles se délavent. Mais sinon, c'est vrai que la base est totalement due à hasard. Et quand je regarde ce personnage, je vois une Jeannette. Une éclaireuse. Scout, et je trouve ça pas mal, finalement, même si j'ai jamais été scout, d'avoir ce côté un peu éclaireuse, quoi, voilà. Alors, sur scène.
Vous avez parlé de la musique. La musique, elle fait partie encore de certains de vos spectacles.
Ah, j'essaye toujours d'en mettre un peu. C'est ma vengeance.
Avec Gérard Morel, notamment.
Oui, avec Gérard, où il chante ses chansons. Moi, j'en chante un peu. Puis je fais du xylophone. Et puis, on fait beaucoup de bêtises sensibles ensemble. C'est un très joli spectacle.
Pourquoi c'est votre vengeance?
Bah, en fait, j'ai appris la musique au Conservatoire du Mans. J'ai commencé par la flûte traversière, pas par choix, mais parce que c'était en clé de sol. Et puis, parce que j'avais pas besoin d'apprendre une autre clé, parce qu'on commence par la clé de sol, le solfège. J'ai eu un prof, donc c'est dans les années 80, sadique. C'est-à-dire qu'il va vraiment dégoûter de la musique. Il m'a fait, c'était violent, quoi. C'est physiquement très, ça se fait pas, quoi. Donc, et moi, j'ai rien dit à mes parents parce que je pensais que c'était comme ça qu'on apprenait la musique. Mais j'ai quand même eu un rapport à la musique toujours très complexé et très conflictuel. Je me suis toujours sentie incapable de jouer. Et de faire, et après, j'ai fait de la percussion classique. Et là, les profs sont un peu plus jeunes, un peu plus cool, je pense. Et là, j'ai pas eu de traumatisme. Mais ce qui fait que je me suis toujours dit, moi, dès que je peux mettre de la musique dans mes spectacles, c'est ma petite vengeance, entre guillemets. Je suis peut-être pas aussi nulle que ce que je pense, mais en tout cas, avec Emma Lacloune, je me sens absolument légitime et capable de faire soit de la flûte, soit de chanter, parce que je chante aussi, et de la percu, quoi.
Et d'aborder différentes formes de questions. On parlait des collaborations, il y a celle avec Gérard Morel pour la musique, et vous avez évoqué plusieurs fois Catherine Dolto. Je vous propose d'abord qu'on écoute un extrait du Grand Symposium, et puis ensuite, on en parlera.
Ça, c'est une personne. Alors, on dirait que ça, c'est la fille, et puis ça, c'est le garçon. Voilà, toujours des pas à peu près. Il n'y a que ça comme différence? Bah, il n'y a pas grand-chose d'autre.
Oh, bah, s'il te plaît.
Si, là, elle a des cheveux, elle a des yeux.
Bah, vous, les hommes
lui,
aussi.
Lui, il a une moustache.
Mais ça suffit pas.
Il a un nombril.
Non.
Il a une tiquette.
Ouais. Non, bah, c'est clair. Et elle, elle a rien.
Elle a dit le loup.
Mais ça suffit pas.
Oh, puis le machin. Il faut savoir que chacun, il a une énergie interne. Chacun, il a une énergie interne.
Ça veut dire la névrose. On veut résumer, quoi. Oui,
bah, un petit peu.
Non, mais il y a de ça, il y a de ça.
Bon, on va voir. Et là, il y a une énergie de liaison. N'est-ce pas pour la relation? S'il y en a un des deux, c'est un peu plus souvent le monsieur.
Ça, je suis pas d'accord.
Qui est soit...
Je suis pas d'accord.
Bon, enfin, l'un des deux, je prends le monsieur par hasard.
Hein. Ben non, mais ça peut être ce que les filles...
Qui est aussi, dépressif, hein. Qui est jaloux, qui est possessif. Toutes des choses comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Son énergie interne va être supérieure à son énergie nominale. Ça veut dire qu'il va avoir besoin d'une énergie supplémentaire qui va aller puiser dans l'énergie de liaison. Pour pouvoir tenir debout, et ça veut dire que elle, la pauvre, la victime, elle va être obligée de puiser dans son énergie interne pour pouvoir maintenir l'énergie de
l'autre. Maintenant, racontez-nous ce qu'on entend, l'extrait du symposium Tout sur l'amour.
Alors en fait, je suis devant un paperboard et je dessine un homme et une femme. Donc la femme, je dessine de grandes patates, puis après je rajoute les jambes, je rajoute les cheveux, je rajoute la moustache pour différencier un tout petit peu. Catherine dit c'est pas assez, alors je rajoute le nombril, oui mais la femme en a un aussi. Alors je rajoute les lolos, oui mais le monsieur aussi il en a, la cravate, oui mais la dame aussi elle peut en avoir. La zézette, la caquette, et puis après je rajoute le sexe féminin avec un petit gribouillis. Et en fait c'est ça, on décrypte dans ce spectacle beaucoup de choses. On parle de l'amour et on cherche qu'est-ce que c'est finalement l'amour. Il y a l'amour amoureux, mais il n'y a pas que ça. Et dans ce schéma-là, on a décrété qu'il y avait effectivement des relations, enfin c'est pas décrété, je pense que c'est assez juste, on n'est pas les seuls à pouvoir en justifier et puis en parler, que dans chacun, dans les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales ou professionnelles, il peut y avoir des moments où il y en a un qui en veut à l'autre. Et on a inventé une mesure qui s'appelle le battre. Et en fait, nous deux, là, on n'a rien, on est en zéro battre, hein, toutes les deux, voilà. Alors qu'il peut y avoir, par exemple, des relations où le mari est un tout petit peu fatigant pour la femme, c'est un exemple, hein. Et là, peut-être le mari, il est à 90 battres. C'est-à-dire que c'est à la fois le nombre de coups qu'il mériterait de recevoir et l'énergie que ça demande à la dame de pas lui en donner, quoi. C'est tout ça, le battre, voilà. Donc, on a créé ce truc-là avec l'aide d'un super mathématicien qui a inventé la formule pour nous, hein, Anatole Khelif. Et on parle de l'amour dans cette conférence-là. C'est une très jolie conférence, j'aime beaucoup aussi.
Alors, parlez-nous de cette collaboration avec Catherine Dolto, donc qui elle est médecin, qui s'occupe essentiellement d'aptonomie, qui est la grande prêtresse de l'aptonomie en France, et qui a décidé, a accepté de se prêter à cet exercice-là pour trois spectacles. Il y a eu la conférence, le grand symposium et les humains. Et elle joue un rôle à vos côtés, celle qui détient d'une certaine manière le savoir et qui est perturbée par ces questionnements d'Emma Lacloune.
Absolument. Et on s'est rencontrés en 2005. C'était un des grands cadeaux de ma vie. de la rencontrer. Et c'est Nathalie Papin qui nous a mis ensemble parce que Catherine a écrit un texte sur le clown à l'hôpital où elle explique ce que c'est donc pour le rire médecin. Et puis ce texte est devenu un petit livre rouge qui est tombé dans les mains de Nathalie qui à l'époque s'occupait d'un festival d'humour. Et elle a dit tiens, ce serait peut-être pas mal que j'invite Catherine à venir parler du clown et de son rapport à la thérapie aussi professionnelle. Et elle a demandé à Catherine si ça allait déranger d'être interrompue par une clown, et c'était moi. Catherine, évidemment, a dit oui.
Elle avait une histoire théâtrale aussi.
En plus, elle a fait la même école que moi, à 20 ans d'intervalle. Catherine, elle a fait l'école Lecoq aussi, c'était une proche de Jacques. Ses parents étaient proches de Jacques Lecoq. Donc, elle a aussi une capacité d'improvisation géniale, quoi, et de rebondissement. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien aussi. C'est non seulement la belle humaine, la grande humaine que c'est, mais c'est aussi ses capacités sur le plateau, quoi.
Donc, il y a une grande souplesse qui s'instaure entre vos interférences et elle, sa conférence, qu'elle est censée mener. Et vous, ce questionnement de, justement, Emma la clown prend en charge les questions qui pourraient être celles d'un enfant, les questions qui pourraient être celles émanant des préjugés donnés.
Oui, d'un adulte qui n'oserait pas poser la question aussi. Oui, c'est ça, c'est tout ce que j'ai en moi à la fois comme question, vraiment, parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, et puis aussi tout ce que, bon, je pense que ça, c'est pas bien de poser ça comme question. Oui, c'est ça, je prends la part de plein de monde en fait.
Alors, comment intervient pour vous l'écriture ? Il y a quand même le choix de thématiques, alors à la fois de fond, on en a parlé, mais aussi de questions d'actualité. Il y a la forme de la conférence ou la forme musicale qui va être exploitée. Comment est-ce que vous écrivez vos spectacles ?
Les conférences, c'est un peu différent parce qu'on écrit avec Catherine et c'est vraiment la première, on l'a écrit en une après-midi, la deuxième, en trois jours et la dernière, humain, un peu plus long, peut-être en 10 jours, quoi. Donc c'est assez rapide. Sinon, moi, mes spectacles solo, c'est vrai que je les écris, ça me prend 1 an et demi, à peu près. Je commence par avoir un thème qui me tombe dessus, que je choisis pratiquement pas, jamais. Et puis après.
Et vous choisissez pas, c'est-à-dire
que tout à coup. Non, personne ne me commande pas, enfin, me commande pas grand-chose. On n'ose pas, je pense. Par exemple, le spectacle sur la mort, et ma mort même pas peur, que j'ai créé en 2013, c'est ma metteur en scène, Christine Hestad, qui est une metteur en scène norvégienne que j'avais dans le spectacle, le solo précédent sur la science, qui était venue et qui m'avait offert à la fin de cette création, 2009, m'avait offert un livre d'Elisabeth Kübler-Ross. Mémoire de vie, mémoire d'éternité, sur le travail de cette psychiatre médecin suisse qui a été la première dans les années 60-70 à faire parler les mourants. Donc je suis tombée sur ce bouquin là et je dis tiens, c'est marrant, la mort, j'avais déjà pensé à ça il y a quelques années.
À la mort
que... Oui, enfin, je pense qu'il faut y penser tous les jours. Moi, j'y pense tous les jours, mais c'est pas du tout triste. Et donc en fait, je me suis dit tiens, ce thème revient, peut-être qu'il serait temps que je m'en occupe. Donc comment ça se passe en général pour la psychanalyse, pour la science, c'est que je lis beaucoup. Ensuite, j'essaye de faire un voyage de quelque part qui me permet de me nourrir d'autre chose que de mots. Par exemple, je suis allée à Bénarès pour la mort en Inde, pour voir là le long du Gange où il y a les corps qui sont brûlés et au milieu de touristes, les brasiers comme ça, au milieu de touristes.
Donc c'est faire des images plutôt ?
C'est faire des... Oui, c'est une espèce de chose qui s'appelle l'inspiration, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de dictionnaire. C'est vraiment quelque chose, une espèce de soupe intérieure qui n'est pas intellectualisable, en fait.
D'imprégnation,
on peut dire ça, voilà. Je suis allée au Chili pour les grands télescopes aussi, pour voir le ciel aussi. Pour le prochain, je ne sais pas encore où je vais aller, parce que c'est un thème encore plus cinglé. Et en fait, voilà, c'est comme ça. Et après, une fois que je me suis nourrie de tout ça, je me mets à table et j'écris selon certains thèmes du grand thème, quoi, voilà. Et une fois que j'ai ces textes, j'en garde plus ou moins, ça dépend. Le divan, j'ai quasiment tout gardé, la mort un peu moins. Et après, je les apprends et je vais sur le plateau toute seule avec une caméra. Et là, c'est pas drôle.
Alors là, c'est quoi ? C'est la question du jeu avec le corps qui est pas drôle ?
C'est parce que, en fait, c'est comme si j'étais une matière brute, une espèce de gros bloc de granit, il faut que je taille dedans. Et alors, c'est très douloureux parce que je suis en Emma la clown, et j'ai ma caméra et je dois commencer à improviser des choses, dire le texte, et c'est très dur parce qu'il y a rien, quoi. Il y a pas de sensation, il y a juste sortir cette matière du fond de moi, et plus ça va, plus je la travaille et plus je la modèle, et elle rentre dans mon corps et finalement elle devient vivante. Mais au départ, c'est rude.
Alors il y a cette souplesse que vous conservez tout le temps, puisque il va y avoir toujours des jeux d'interaction avec le public, des jeux d'improvisation ou même le public peut parfois monter sur scène.
Ah non, ils montent jamais, ça je suis contre.
Non, mais vous leur parlez.
Je leur parle toujours parce que je trouve, de toute façon, le clown c'est ça, c'est on joue pas devant son public, hein, on joue avec son public. C'est-à-dire, je peux à chaque chose, à chaque fois, c'est toujours différent. Et s'il y a des choses qui se passent, je les prends, pas toujours. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ça qui est un petit peu, enfin qui fait partie intégrante du clown, c'est qu'on est dans l'ici et maintenant, quoi, dans cette force-là de ce partage commun avec le public.
Donc ça veut dire que pendant que vous jouez, il y a une dynamique d'observation de la salle.
Absolument, il y a Myriam qui est en haut quelque part, là, en haut de l'échelle du crâne et qui regarde, tac tac tac, qui crie, qui capte un peu ce qui se passe, qui dit là c'est pas la peine de réagir, ça va ralentir le truc, voilà. Et de moins en moins elle est présente, c'est-à-dire de plus en plus maintenant je laisse Emma faire tout quoi. C'est un peu étrange d'ailleurs. J'ai plus
ça veut
le trac,
dire quoi ?
C'est-à-dire j'ai plus le trac et quelquefois là j'ai fait quand j'ai fait les dialogues en humanité à Lyon, j'ai dû pendant deux jours tout ce qui se passait, les agora, tout ce qui se racontait sur le climat, le réchauffement climatique. Et à la fin, à 18h30, le dimanche, il fallait que je fasse comme ça, quelque chose de très improvisé, presque pas écrit. Et j'ai eu la trouille pendant deux jours, j'avais rien, quoi. Et je me suis dit, ok, c'est Emma qui fait. J'ai pas à m'inquiéter, c'est elle qui sait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est parce que si j'ai 28 ans de cohabitation.
Alors, justement, qu'est-ce que vous regardez ? Vous observez des attitudes, des physiques ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez interagir avec tel ou tel personnage du public qui devient lui aussi un personnage en face d'Emma ?
Disons que je lui demande le prénom, forcément, donc il devient un petit peu le héros du public. J'écoute, s'il y a quelqu'un qui tousse souvent, je fais une réflexion. S'il y a quelqu'un qui se lève pour aller, qui sort, je le remarque, parce que tout le monde le remarque, donc je ne vais pas faire semblant de ne pas le remarquer. Et puis voilà, mais c'est toujours très très bienveillant. Hein, et puis je les remercie toujours à la fin aussi. Hein.
Donc, à travers justement ces espaces de liberté que vous vous créez, est-ce que c'est pour pouvoir conserver toujours un spectacle mouvant qui va pouvoir s'enrichir à chaque fois, ou est-ce que finalement...
Non, c'est pas volontaire. C'est que le clown il est face à son, il est face aux gens quoi. Je fais pas semblant. Il y a pas de quatrième mur. Ils sont là. Donc c'est pas du tout. C'est parce que je trouve qu'on a une même chose. On partage quelque chose ensemble. C'est le clown il est juste là pour indiquer un chemin, mais sinon on a quand même un fond commun. Commun, quoi, à partager.
Merci Myriam d'être venue aujourd'hui avec nous.
Merci.
Je rappelle que la randonnée spectacle avec Emma Lacloune intitulée Bottin botanique est présentée ce jeudi 1er août dans le cadre du festival Humour et Eau Salée. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle grande table demain à 12h45. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Chouchène Gergaillon, Lou Le Joli, Lou Quevauvillier et Julien Rosa, à la réalisation Alexandra Longuet, à l'aide aussi de Pablo Valero et à la technique Cindy Le Grumelec.